Commencer par un poème de Hind Joudeh. Elle est née en 1983 à Gaza, où elle vit encore, et sa famille est originaire de la ville d'Asdod, qu'elle a quittée en 1948. Et donc le poème que j'ai choisi pour commencer s'intitule « De l'eau en attendant que les choses s'éclaircissent ». L'eau a une couleur. Un goût, une odeur. Demandez à la mer. L'eau, croisement de la soif et du bêlement. La fontaine, balançoire préférée de l'eau. Le chuintement est une musique qu'interprètent les gouttes d'eau haletant dans les veines de la terre. L'eau est le secret de la vie. Fini le secret. Quelle poignée d'eau ferait miroir ? L'eau, à l'intérieur d'un verre, ne ressemble pas à celle vue du dehors. Les doigts de l'eau ne sont pas semblables. Un fleuve qui ne ressemble pas à une mer, une source qui ne ressemble pas à un puits. L'eau est mince. Un rocher peut la casser. L'eau a des yeux, des oreilles, une bouche parfois. L'eau doit chercher l'occasion de se cacher en dehors des doigts de la chaleur. L'eau est une tueuse professionnelle. La noyade est son instrument préféré. L'eau est hypocrite. Elle fond dans le sucre comme dans le sel. Le mirage, preuve des grandes manigances de l'eau. L'eau tient du mercure, le froid la gèle, la canicule la fait fondre. Elle tient aussi du merveilleux et disparaît quand les feux s'attisent sous elle. L'ébullition crie de l'eau. Le brouillard, égoïsme, d'une eau qui veut paraître en force. Plus tard, nous découvrirons que l'eau n'est pas le secret de la vie et que seule la nostalgie court dans nos sens et nos globules. L'eau n'est ni évidente ni pure, mais vous en êtes dupes.
Bonjour, aujourd'hui nous avons démarré l'émission « Une heure en Palestine » avec un poème. Cette émission est programmée tous les mercredis de 18h à 19h sur les ondes de Radio Galère et elle est animée par différentes associations de soutien à la Palestine. Ce soir, c'est Palestine 13 qui vous propose cette émission. C'est Sidi qui est la technique. Merci Sidi et merci à toute l'équipe de Radio Galère. Je suis avec mon complice, Marc, acteur culturel et militant engagé pour la justice en Palestine. Avant de démarrer, je vous rappelle que pour Palestine 13, si vous désirez avoir des renseignements sur nos activités ou des informations plus générales sur ce qui se passe en Palestine, vous pouvez consulter notre site internet qui est mis à jour quotidiennement, www.assopalestine13.org. Nous renouvelons les articles de notre site et de notre page Facebook chaque jour en essayant d'alterner actualités locales et internationales, documents de fond, ainsi que des pages historiques, culturelles ou sportives. Vous y trouverez des pétitions, des appels à participer aux campagnes nationales ou internationales, comme celle en cours contre Puma, Puma, le sponsor de l'OM, honte à lui, car il est aussi le sponsor des équipes de foot des colonies israéliennes illégales. Car bien sûr, Palestine 13 est partie prenante du mouvement BDS, Boycott, Désinvestissement, Sanctions, mouvement créé par les Palestiniens en référence au mouvement de boycott de l'Afrique du Sud au moment de l'apartheid. Sur notre site, dans la rubrique Agenda, vous trouverez les dates, les lieux des actions à venir à Marseille, à Martigues et dans notre département autour de la question palestinienne, qu'il s'agisse de films, de rencontres ou d'autres événements. Je vous rappelle www.assopalestine13.org et notre page Facebook Palestine 13. Il y a beaucoup d'actualités et je vous invite à la consulter. Mais je voulais vous informer dès maintenant de la venue à Marseille les 12 et 13 septembre de Mohamed Sabanet. C'est un dessinateur caricaturiste de talent que nous avons déjà rencontré au Festival du dessin de presse et de la caricature de l'Estac. Le 12 septembre, il présentera son nouvel ouvrage à la librairie Transit et le 13 septembre au Polygone étoilé avec la projection d'un documentaire « Beautiful Résistance ». Peindre, c'est résister. Nous sommes ravis de revoir bientôt Mohamed. Une autre très bonne nouvelle, en novembre-décembre, le Théâtre de la Joliette proposera 3 spectacles que nous rêvions de voir à Marseille. La première pièce, le 21 novembre, nous permettra de découvrir le Cachabi Théâtre. Cette pièce, qui a connu un grand succès la saison dernière, s'appelle Milk. Présentée comme une tragédie moderne, Milk revêt les traits d'une composition muette, une série de tableaux saisissants mettant en scène des femmes touchées par la disparition de leur fils. Elles sont palestiniennes, mais pourraient être de Kiev ou de Paris, tant leur histoire est universelle. À travers leur corps en mouvement, le metteur en scène palestinien Bachir Murkus déploie une pièce bouleversante, une ode au deuil, à la perte et à la douleur, aux souvenirs. Toujours au Théâtre de la Joliette, les 21 et 22 novembre, nous aurons le bonheur de découvrir le Freedom Théâtre avec la pièce « And Here I Am ». Dans cette pièce « And Here I Am », Ahmed Tobassi interprète sa propre histoire, brillamment mise en scène par le célèbre écrivain irakien Hassan Aboulbazak. Cette série d'épisodes tragicomiques retrace son parcours depuis son appartenance à la djihad islamique palestinienne jusqu'au comédien qui se présente aujourd'hui devant nous avec une question en tête. La scène peut-elle être aussi puissante qu'un AK-47 ? Une question d'actualité. Nous en reparlerons autour de cette émission, car vous avez bien entendu, c'est le théâtre de Jénine. Nous sommes gâtés du 12 au 15 décembre, troisième proposition du théâtre de la Joliette, une histoire subjective du Moyen-Orient, mais néanmoins valide, par le théâtre Majaz. À travers l'histoire d'une femme, partagée entre le Liban, la Palestine et la France, le théâtre Majaz dessine la cartographie sensible et intime d'un aller-retour entre l'Occident et l'Orient, une histoire de passion et de tragédie, d'identité morcelée et d'espoir permanent. La programmation du théâtre de la Joliette est en ligne et les réservations sont ouvertes. Précipitez-vous. Et moi, au nom des militants de Palestine 13, du Palestine, Palestine en résistance et en votre nom, j'espère, je souhaite remercier le Théâtre de la Joliette pour cette magnifique programmation. Merci à eux pour leur courage et leur ouverture d'esprit. Je poursuis l'agenda culturel avec une proposition plus proche. Dans le cadre de la manifestation « Oh les beaux jours », nous pourrons découvrir un roman policier pour comprendre le conflit israélo-palestinien. Ce sera dimanche 16 juillet à 11h. La romancière Alexandra Schwarzbrod viendra présenter sa trilogie « Balagan, Adieu Jérusalem et les Lumières de Tel Aviv » parue aux éditions Rivage Noir Poche. Cette rencontre aura lieu dans les jardins de l'Imera, 2 place Le Verrier à Marseille. L'entrée est libre et sans réservation. Je vous rappelle, dimanche 16 juillet à 11h. Avant d'aborder le thème que nous avons choisi pour cette émission, je souhaite dédier celle-ci aux enfants de Jénine, aux enfants, aux jeunes et aux familles enfermés dans le camp depuis tant d'années, aux jeunes massacrés par Israël et crier ma colère contre nos grands médias et leurs journalistes qui n'ont aucune compassion envers le peuple palestinien, qui répètent sans faire leur métier de vérification et d'investigation les mêmes informations dictées par Israël et ceux qui servent ses intérêts. Non, les habitants de Jénine, non, ces jeunes ne sont pas des terroristes. Ils veulent juste vivre, ils veulent la justice. Ce ne sont pas des terroristes, ce sont des résistants. En leur honneur, je vous propose d'écouter un petit morceau de l'hymne national de Palestine. Mais d'abord, Marc va vous lire les paroles.
Ma patrie, ma terre, la terre de mes aïeux. Ma patrie, ma patrie, ma patrie. Mon peuple, peuple d'éternité, avec ma détermination, mon feu et le volcan de mon retour, avec la nostalgie dans mon sang, pour ma terre et mon foyer, j'ai gravi les montagnes, j'ai milité, j'ai conquis l'impossible et franchi les frontières. Ma patrie, ma patrie, ma patrie, mon peuple, peuple d'éternité, avec la résolution des vents et le feu des armes et la détermination de ma nation, dans la terre de la lutte, Palestine, mon foyer, Palestine, mon feu, Palestine, ma revanche, terre de l'endurance. Ma patrie, ma patrie, ma patrie, mon peuple, peuple d'éternité, par le serment à l'ombre du drapeau, par ma terre et nation et le feu de la douleur, je vivrai résistant, endurerai résistant et finirai résistant jusqu'à la restitution de mon pays. Ma patrie, peuple d'éternité.
Merci Marc. Nous allons écouter cet hymne palestinien en l'honneur des enfants de Jénine. Depuis la nuit de dimanche à lundi, l'armée israélienne, qualifiant la grande ville du nord de la Palestine et son camp de réfugiés de Niafrelon, a démarré une opération militaire terrestre et aérienne, faisant 10 morts et des centaines de blessés. Ces tentatives pour éradiquer le combat contre l'occupation ne réussiront pas, prédit le directeur du Théâtre de la Liberté de Jénine, Mustafa Cheta. Marc va vous lire son témoignage paru sur le site internet du Théâtre de Jénine.
Aujourd'hui, lundi 3 juillet 2023, je m'adresse à vous pour partager un récit personnel des événements qui se sont déroulés au camp de réfugiés de Jénine tôt ce matin. L'opération militaire israélienne a commencé par une agression contre des sites censés être affiliés à la résistance palestinienne. Les attaquants ont prétendu que ces lieux étaient leurs cibles, lançant 3 missiles qui ont coûté la vie à des innocents et ont fait de nombreux blessés. Peu après a débuté une invasion de grande ampleur menée par des forces armées omniprésentes. Des jeeps, des véhicules blindés, des bulldozers militaires ont pris Jénine d'assaut, affirmant leur domination sur le terrain. Le ciel n'était pas épargné puisqu'une multitude de drones planait de façon menaçante. Pendant ces heures tumultueuses, il était impossible pour les habitants de Jénine de dormir, qu'ils soient jeunes ou vieux. Ma fille, Salma, était terrifiée par les sirènes hurlantes qui annonçaient l'incursion de l'armée et ses larmes ruisselaient de façon incontrôlable. Pendant ce temps, mon fils Adam se montrait à la fois effrayé et curieux, essayant de comprendre la gravité de la situation. Isra Awartani, comptable du Freedom Theatre, s'est hâtée de créer chez elle un espace sécurisé pour protéger ses trois filles du danger. Hamed Tobazi, directeur artistique du Freedom Theatre, s'est trouvé face à face avec un véhicule blindé stationné devant sa maison, le canon pointé sur sa fenêtre. Rania Wafsi, ancienne collègue du Freedom Theatre, s'était forcée frénétiquement de joindre sa mère et sa sœur, ayant appris que leur maison avait été bombardée. Dans la matinée, on a su qu'une attaque destructrice avait touché le Freedom Theatre, où des familles avaient cherché à se réfugier au milieu du tumulte. Sans pitié, les forces d'occupation les ont prises pour cible de leurs missiles, fracassant tout espoir de sécurité. Atnan, qui vit au voisinage immédiat du Freedom Theatre, s'est blotti avec sa famille dans une seule pièce, s'efforçant de trouver un apaisement au milieu du chaos. Sadel, 14 ans, nièce d'Atnan, avait été tuée par un sniper israélien il y a moins de 2 semaines. Sa famille vit dans le même quartier. Il ne faut pas sous-estimer la gravité de la situation. L'occupation ne cesse de resserrer son emprise sur le camp des réfugiés, décimant son infrastructure et rendant impraticables les principales artères du camp. Le message est limpide. Punir la forteresse de résistance populaire de Jenin, projeter en direction de la société israélienne une image d'invincibilité en termes de prouesse militaire. Qu'est-ce qui nous attend ? À mon avis, la réponse est rien. Les tentatives de l'occupation d'éradiquer la résistance à Jenin ne réussiront pas, rencontrant le même échec qu'en 2002. Les bâtiments peuvent s'effondrer, les voitures peuvent être réduites à des débris, d'innombrables individus peuvent être incarcérés, blessés ou même devenir des martyrs. Mais ces actes ne serviront qu'à faire naître une nouvelle génération qui portera le flambeau de la résistance, transmis par ceux qui sont venus avant eux, comme nous le faisons aujourd'hui, et comme nos enfants le feront à l'avenir. C'est un effort inlassable qui a pour moteur l'aspiration à reprendre notre terre et à rétablir la dignité de tous les êtres humains.
C'était un témoignage du directeur du théâtre de Jenin. Un témoignage beau et humain. Merci Mustapha Cheta. J'en arrive à notre émission d'aujourd'hui. Nous souhaitons évoquer l'exposition « Ce que la Palestine apporte au monde » à l'Institut du monde arabe à Paris. Pour cette grande exposition de 2023, année de commémoration du 75e anniversaire de la Nakba, qui a chassé de chez eux des centaines de milliers de Palestiniens en 1948, l'Institut du monde arabe a choisi de donner à voir l'élan et l'irréductible vitalité de la création palestinienne, qu'elle s'élabore dans les territoires ou dans l'exil. Cette exposition propose des approches muséales plurielles. Moment d'éternité du grand Mahmoud Darwish, déclamant ses vers avec en écho les calligraphies de Karaïchi et Massoudi. Dialogue photographique entre Terre Sainte inventée des orientalistes et celle des contemporains. Exposition des précieuses archives palestiniennes de Jean Genet. C'est un subtil et intense parcours de correspondances visuelles et de sujets que nous invite Lima. Cette exposition débute le 31 mars. A débuté le 31 mai 2023 et se déroulera jusqu'au 1er octobre à l'Institut du monde arabe à Paris. Pour vous la présenter, nous avons choisi un enregistrement de France Culture dans lequel Olivia Gisbert reçoit le co-commissaire de l'exposition Elias Sambar, écrivain figure de la lutte pour la reconnaissance de la Palestine, et le photographe Red Bouvaya, dont on retrouve certaines photographies durant l'exposition. Bonne écoute et à tout à l'heure.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour et bonjour à vous, Raed Bawaya.
Bonjour.
Bonjour à tous les deux. Merci d'être là. Si je vous demande comment ça va, Elias Sambar, est-ce qu'il est possible que vous me répondiez en arabe par du goudron, traduit littéralement ? Qu'est-ce que ça signifierait ?
L'expression est très courante en arabe. Quand les choses sont mauvaises, dures au niveau quotidien, la réponse c'est zift. Zift veut dire goudron, donc la noirceur. Ça veut dire que ça ne va pas. Ça veut dire qu'elle est noire. C'est la noire. Mais vous savez, il y a le même mot dans un mode magnifique de musique au Portugal, qui est le saudade. Saudade veut dire, vient de l'arabe, de sauda, qui veut dire la noirceur du cœur. Et le zift, c'est aussi une forme de saudade par rapport à des gens qui vivent sous occupation, dans une injustice flagrante quotidienne. Mais, comme vous le disiez déjà, avec cette exposition, ça va très bien, parce que cette exposition montre à quel point nous sommes bel et bien vivants, et à quel point nous sommes toujours, je dis toujours parce que ça ne date pas d'hier, porteurs d'une obsession de la culture. Nous sommes obsédés par la culture. Ça se voit moins depuis longtemps, parce que le conflit est là, qui un peu recouvre d'autres aspects de la vie, mais cette donne de l'identité palestinienne n'a jamais cessé d'exister et de se manifester. Donc cette exposition, c'est fondamentalement dire que ce qu'on montre, c'est la culture.
Mais cette exposition, elle nous montre justement du goudron, c'est-à-dire la réalité, parfois dure, parfois sombre, mais aussi des plumes. Parce qu'il y a une part de rêve aussi à travers ce que les artistes présentent dans cette exposition. Raed Bawaya, comment vous allez ?
Je vais très bien, merci. On essaye, c'est pas toujours, mais on essaye d'être bien, on essaye de... Parfois d'oublier, de faire oublier pour pouvoir continuer à faire les choses. Cette exposition qui ouvre au monde plus de 400 fenêtres sur la Palestine. Et voilà, et montre que la Palestine est encore existante. Et
elle montre beaucoup.
Et continue à faire, ouais. Faire le chemin qui a choisi, le chemin de la culture, et exprimer à travers la culture autre chose qu'on voit habituellement, on se voit habituellement dans le monde. Voilà.
Et elle montre beaucoup de visages de la Palestine, d'hier.
Beaucoup de visages diversifiés de la Palestine, de la culture, de la société palestinienne, et de l'autre, de la société palestinienne, surtout l'être humain de la Palestine.
Pour cette exposition, vous avez rassemblé des images de Palestine. Elles ont plus d'un siècle pour certaines, ou à peine plus d'un an pour d'autres. Elles dialoguent entre elles dans une même langue, c'est la photographie. Ce médium, il permet beaucoup. Quand est-ce que vous avez choisi, Raed Bawaya, de vous saisir d'un appareil photo et de faire de la photographie votre langue ?
C'était la photographie pour moi, ou plutôt l'appareil photo, la machine que je connais dans les marchés de la vieille ville de Jérusalem. Quand j'étais en France, j'avais 10 ans, que ma mère m'a envoyé là-bas pour vendre des raisins, pour pouvoir amener un bout de besoin de la famille, notre famille nombreuse. Et là-bas, c'est mon rêve, pas de photographe, mais de connaître le médium, de découvrir cet appareil. Et la nuit, dans les marchés de vieille ville de Jérusalem, parce que comme vous le connaissez, la vieille ville de Jérusalem, c'est la ville touristique la plus visitée par les touristes. Et voilà, c'est cet appareil que je rencontrais avec, je l'ai vu avec toutes les masses de touristes qui sont venus visiter la ville sainte. Et là-bas, ce désir, il a né avec moi de découvrir cet appareil photo, de le connaître, et le désir qui était très difficile à réaliser, très difficile à toucher, parce que voilà, je suis né dans une famille de sans moyens. Donc voilà, ce rêve, je portais jusqu'à l'âge de 30 ans où j'ai commencé à faire des études, commencer mes études photographiques à l'école de photo à Jérusalem.
Voilà, et maintenant, vous avez toujours ce boîtier sur vous ?
Oui, maintenant, voilà, donc je suis... J'essaye, à travers mon appareil photo, à travers la photographie, voilà, je
vous essayez de quoi ? De témoigner, de montrer, de raconter ?
Je voyage pour témoigner, de raconter, mais si, pour moi, la photographie, c'est une recherche sociale à travers la photographie. Mon appareil photo, c'est un objectif, c'est un moyen pour faire la recherche sociale à travers la photographie, pour pouvoir montrer l'autre.
Il y a effectivement deux regards présentés dans cette exposition. Un regard plutôt orientaliste, Elias Sambar, avec une trentaine de clichés qui ont quelque part figé une certaine idée de la Palestine à l'époque. Oui. Cette idée d'une terre sainte, immuable. Et puis, alors ça c'est vu là, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'était plutôt des photos en noir et blanc qui sont passées à la couleur grâce à un procédé qui est le photochrome. Et puis un regard contemporain avec des photographes qui racontent la vie quotidienne en Palestine aujourd'hui. Vous faites dialoguer ces deux regards. Registre d'images, mais vous êtes reparti là encore du choix de la photo. Pourquoi, Elias ?
Je vais vous dire, il y a une chose fondamentale, et j'ai un énorme plaisir à écouter Raed. Raed était venu me voir il y a quelques années à l'UNESCO, quand j'étais encore ambassadeur. Il commençait son travail, et j'avais été littéralement époustouflé par la beauté des clichés qu'il avait apportés et qu'il me montrait. Nous n'aurions pas eu l'occasion, et c'est une chose très importante à dire aujourd'hui, n'aurions pas eu l'occasion d'aborder ces territoires, l'image, la photographie, la poésie avec la voix de Derwish, les arts graphiques, la peinture, ainsi de suite. N'aurions pas eu l'occasion de le faire s'il n'y avait pas eu une forme d'hospitalité assez exceptionnelle à l'Institut du monde arabe. Souvent on me dit, pourquoi tu ne l'as pas fait avant ? Parce qu'il fallait bien qu'il y ait quelque part un accueil. Et donc ce projet de musée est fils, enfant de cet accueil, et c'est une chose qui nous touche beaucoup, énormément, et il faut dire, il faut le reconnaître, nous avons une grande gratitude pour l'accueil que nous a réservé Jacques Lang.
On va en parler si vous voulez c'est la question aussi du musée qui se pose à travers ça.
Je vais y arriver, parce que ça n'est pas commun, parce que souvent la question qu'on me pose, c'est pas seulement l'image, c'est qu'est-ce que vous avez à montrer. Ce que j'ai à montrer, je l'ai depuis longtemps. Mais pour la première fois, j'ai l'occasion de le montrer. C'est ça qui est important à mes yeux. Au niveau de l'image, bien entendu qu'il y a un travail au 19e siècle de figer une terre, de l'enfermer dans des textes ou dans des théologies ou dans des croyances. Et c'est ainsi que commence la préparation du fameux slogan de la terre sans peuple pour un peuple sans terre. Donc tous ces clichés, et ils sont très dangereux parce qu'ils sont très beaux. Ces photos du 19e sont extrêmement charmeuses, pas charmantes, vraiment charmeuses. Et elles ont beaucoup contribué à asseoir cette réalité. Parce qu'il y a des personnages dans ces images. Mais vous les voyez comme des vestiges, des restes de quelque chose. Et un vide. Et j'ai voulu les mettre en confrontation un peu avec toute la vitalité, pas simplement la vie quotidienne aujourd'hui, toute la vitalité créatrice d'un mouvement aujourd'hui de photographes dans lequel, auquel participent beaucoup de femmes palestiniennes, et c'est une chose très belle aussi, qui est un regard créatif, nouveau, et surtout qui n'est pas uniquement, vous posiez la question à Raed, qui n'est pas uniquement une illustration du conflit, qui est leur vie quotidienne.
Complètement. Et on va illustrer ce point-là avec quelques-unes des photos et des photographes présents dans cette exposition. Mais juste, Elias Sambar, quand vous dites ces images sont charmeuses, moi j'entends peut-être aussi dangereuses aussi derrière ça. En quoi ces clichés du 19e ?
Parce qu'elles sont très belles.
Et donc ?
Parce que c'est une très belle terre.
Et donc ?
Et qu'elle a toujours été une terre cible, pas simplement pour des raisons religieuses. Mais elles ont été assujetties à une terre. Il faut que vous sachiez, à l'époque où se font ces photographies, le grand mouvement qui va notamment, qui est sous la pulsion de l'Église d'Angleterre, plus que les autres, donc les Anglicans, décide lui-même de s'appeler une croisade pacifique. ça n'est plus la guerre, mais c'est quand même une croisade. Et c'est vrai. C'est vrai que ça a repris, et avec, bien sûr, avec souvent des très mauvaises surprises. Par exemple, quand vous voyez dans les textes des voyageurs leur dépit, quand ils constatent que les chrétiens palestiniens ressemblent aux musulmans palestiniens, que les musulmans palestiniens ressemblent aux juifs palestiniens, et que tout ce monde ne ressemble pas à l'image idyllique qu'on essaye de montrer dans les photos. Et bien sûr, il y a la peinture aussi orientaliste. Donc, il fallait à tout prix montrer cet écart entre un pays fictif et un pays réel.
Un pays fictif et un paradis perdu, peut-être aussi.
Moi, j'ai très peur des paradis perdus. Ils ont fait le lit de toutes les dictatures. Vous savez, toutes les dictatures parlent d'un âge d'or. À l'époque où tous les peuples étaient parfaits, où il n'y avait pas d'étrangers parmi nous pour nous souiller, où nous étions purs, il y a la pureté dans l'idée de ces situations d'origine. Moi, ça me fait très très peur. En tout cas, c'est un élément qui a été utilisé par tous les despotismes. Non, il n'y a pas de pureté. Ça n'existe pas. Il y a des choses très belles. Tous les peuples sont complexes. Dans tous les peuples, vous avez à boire et à manger, si je peux m'exprimer ainsi. Cette idée idyllique des paradis perdus est très dangereuse. Ce n'est pas un paradis perdu, mais c'est un pays qui était très beau, qui est toujours très beau, malgré tout ce que fait l'occupant. Je parle du mur, des destructions. La nature est en train d'être très, très ravagée aujourd'hui. Et souvent, avec des interlocuteurs israéliens, je leur dis, moi, je me pose une question. Ce pays dans lequel vous êtes en train de faire ce que vous faites, est-ce que vous l'aimez vraiment? Vous êtes sûr que vous l'aimez pour lui faire subir toutes ces destructions dans ses collines, dans ses vallées, dans ses paysages, dans son image? Son image. Et j'espère qu'elle ne sera pas immuable. Encore une fois, je ne suis pas à la recherche de retrouver l'image antérieure de la Palestine avant l'occupation ou avant la destruction. Vous comprenez? Ce qui m'intéresse beaucoup est toutes les salles de cette exposition, j'espère, seront le reflet de cela. C'est le goût de la vie.
Oui, mais il y a des oliviers qui sont peut-être plus vieux que vous aujourd'hui en Palestine. Et eux aussi, c'est important qu'ils aient un avenir. On comprend bien cette idée-là. Il y a parmi, ou dans cette exposition, des voix importantes aussi de la culture palestinienne contemporaine. Certains vivent encore là-bas, d'autres sont en exil. Oui. On peut citer Annie Zourop, qui a grandi à Rafah, puis à Naplouse, puis Jenin, puis Ramallah, avant de venir s'installer à Paris, et qui a fait justement de cette question du goudron, qui a ouvert notre discussion, une série, puisque le goudron, c'est aussi pour lui une matière particulière avec laquelle il travaille, il peint, et à travers laquelle il questionne l'identité, parce que c'est un peu le fil conducteur aussi de toutes vos photographies. Red Bawaï, il y a au début de ce cycle de l'exposition des photographies de vous, avec cette série à caractère autobiographique que vous avez imaginée. Je vais essayer, Red Bawaï, de ne pas écorcher le nom de cette série, puisque c'est en fait le numéro de votre carte d'identité, ID 92 55 96 611. Voilà pour les numéros, les chiffres qui la composent. Et cette série à vous de photos, elle retrace en réalité la condition des travailleurs palestiniens qui sont sans permis en Israël et qui régulièrement doivent traverser cette frontière, au péril aussi, au péril parfois de leur vie. Ils doivent la traverser pour y gagner leur vie. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter avec cette série? Comment est-elle née, surtout?
Oui, en fait, merci. En fait, cette série, voilà, elle est née dans une cellule de prison à Jérusalem. Et c'était une journée ordinaire où je me suis réveillé à 5 heures le matin, comme je faisais pendant 3 ans, pendant la durée de mes études à l'école de photo à Jérusalem. Et je commençais mes études à l'école de Jérusalem au début de l'année de 2000, quelques mois après la deuxième intifada a commencé et le passage. Et après, le gouvernement israélien il a appliqué une loi d'interdiser la citoyenne palestinienne d'entrer en Israël, dans le territoire israélien, notamment à Jérusalem-Est. Et c'était mon cas. C'était une journée ordinaire où je me suis réveillé à 5 heures le matin, traversant trois montagnes pendant 2 heures, 2 heures et demie pour pouvoir arriver avec. Parce que heureusement, je ne sais pas, heureusement ou malheureusement, mon village natal est situé sur la ligne verte qui sépare le territoire palestinien, le territoire palestinien du territoire israélien. Et de l'autre côté, de l'autre territoire israélien, il y a un autre village mitoyen palestinien qui s'appelle Abu Ghosh. Et traversant, arriver à Abu Ghosh, au village Abu Ghosh, puis prendre le bus jusqu'à Jérusalem pour assister à mes cours de photo à l'école de photo à 8h. Et quelques centaines de mètres avant d'arriver à mon école, j'étais arrêté par un point de contrôle de la police de frontières israéliennes. Spécial israélien. Et c'était un checkpoint surprise, voilà. Ils m'ont arrêté, ils m'ont demandé mes papiers et là, ils ont découvert que je suis palestinien, originaire, citoyen de la territoire palestinien. Et voilà, et ils m'ont amené en prison. Pendant 2 semaines, j'ai passé 2 semaines en prison pour une seule cause, une simple cause, que j'étais étudiant à l'école de photo, j'ai fait mes études à l'école de photo. Et le projet de travailleurs palestiniens, légaux palestiniens qui travaillent et vivent en Israël pendant leur mission de travail, le Blue Bar de Hutz, des travailleurs qui travaillent dans le bâtiment, la construction, c'est-à-dire traverse à cette époque, c'était avant la construction du mur, c'était la frontière, en fait, la frontière entre le territoire palestinien et le territoire israélien, c'était quelque chose d'abstrait, c'était quelque chose d'artificiel, c'est-à-dire la ligne verte, mais il n'y a pas de ligne verte, c'est un territoire.
Et par exemple, cette photographie qui est présente dans l'exposition, elle est photocopiée en noir et blanc pour pouvoir vous la présenter, qui date de 2003, ces hommes qui sont comme presque cagoulés ou avec des sacs plastiques sur la tête, qui sont en train de marcher traverser un paysage plutôt aride, qu'est-ce qu'elle raconte?
En fait, cette photo, ça témoigne du passage des étudiants d'une école à côté de la colonie israélienne dans la région de Gosh Etzion, à côté de Bethléem. Le moment que j'ai pris cette photo, c'était une journée dans une matinée, elle pleuvait et voilà, c'était ce sac de plastique, ce sac poubelle en fait, pour le protéger de la pluie de la matinée, pour pouvoir traverser comme je vous dis, cette frontière artificielle, invisible entre les deux côtés.
Voilà. Une exposition consacrée à la Palestine, ce que la Palestine apporte au monde, avec nos deux invités aujourd'hui, le photographe Raed Bawaya et Elias Sambar, écrivain commissaire de cette exposition à voir à l'Institut du Monde Arabe à Paris.
Yeah. Wallahi, it ain't girls like you out here in the west. I know I've been away, but I'm coming back home. No need to stress, baby. All I know, all I know, all I know is to be Palestinian, so always rep where you come from. Except when you're online at the customs. Told her she can meet me up in London. She let me cause I came from Gaza with love.
Après ce bel enregistrement où nous avons savouré la parole toujours aussi magnifique d'Elias Sambar et le professionnalisme d'Olivia Gisbert, nous souhaitons parler du catalogue de cette exposition. Donc je rappelle le titre, « Ce que la Palestine apporte au monde ». Ce catalogue est publié dans la collection Araborama, créée par l'Institut du Monde Arabe et les éditions du Seuil. Il rassemble journalistes, intellectuels, écrivains, artistes et illustrateurs pour explorer les réalités présentes, la pluralité et l'histoire du monde arabe. Marc va vous lire un extrait de l'introduction de ce magnifique catalogue, de l'introduction de Christian Ayad.
À l'heure où la Palestine semble abandonnée de tous, à commencer par les États arabes, nous avons choisi d'y retourner comme une évidence. Pour raconter son peuple dispersé par l'histoire et les frontières. Nous avons voulu arpenter son territoire, divisé entre Gaza et la Cisjordanie avec Jérusalem pour centre introuvable, annexé par la colonisation israélienne et grignoté par le mur de séparation. Devenu le symbole de la colonisation dans un monde en train de se décoloniser dans la deuxième moitié du XXe siècle, la Palestine ne s'appartient pas. Elle est une cause, une source d'inspiration pour le monde entier. Le kéfir est le drapeau des révoltés. Palestinien n'est plus seulement une nationalité sans pays, c'est une condition et le refus de s'y plier. C'est une résistance obstinée de chaque instant et de chaque geste. C'est du monde tel qu'il va mal dont la Palestine nous parle. La Palestine vit déjà à l'heure d'un monde aliéné, surveillé, encagé, ensauvagé, néolibéralisé. Les Palestiniens savent ce que c'est d'être un exilé sur sa propre terre. Apprenons d'eux.
Alors cet ouvrage, il est un peu cher. Hein. Le catalogue, il coûte 25 euros. Mais si vous avez un beau cadeau à faire ou à vous faire, n'hésitez pas. Parmi les nombreux contributeurs, il y a René Beckmann, Tarak Bakoni, Bertrand Badi, Jean-Paul Chagnolo, Sylvain Sipel, Jean-Pierre Filieu, Alain Grèche, et il y a Leïla Chaïd, bien sûr, et il y a notre chère amie marseillaise, la dessinatrice talentueuse Léna Merej. Notre émission, avant de terminer, Marc va nous lire des poèmes. Et ensuite, nous écouterons un morceau du trio Joubran, L'art d'aimer. Marc, à toi.
Eh bien, puisqu'on a beaucoup parlé de photos, j'ai choisi un poème de Ena Sultan, qui est elle est née en 1992 à Gaza. Elle y réside toujours. Et sa famille a dû quitter en 1948 sa ville d'origine, Asdod. Elle est géologue de formation. Et ce poème s'appelle « Photo personnelle ». Prenez-moi en photo, s'il vous plaît. Premièrement, je veux qu'aucun des hommes que j'ai connus n'y figure. Prenez-la, s'il vous plaît, avant que les souvenirs ne me reviennent. Mon père, qui s'est enfui avec une femme pleurnicharde, avait peur et disait « Son visage est une maison ». Et ma mère qui a dit que celles qui sont désespérées ne sautent pas à sauter. S'il vous plaît, je veux paraître comme une orpheline. Sur les photos, la bouche de mon unique sœur est toujours ouverte. Assurez-vous que ma bouche est bien fermée avant de prendre la photo. Je ne veux pas que mes amis apparaissent en arrière-plan. Je veux que la photo soit tout à fait véridique. De grâce, dites-moi quelque chose qui puisse me convaincre que j'ai une demeure. Par exemple, vous avez l'air douce comme une petite maison. Mademoiselle, votre photo, a crié le photographe éméché.
Un autre, allez Marc, merci beaucoup. Dis-nous-en encore, hein. On mettra un peu moins de musique.
Alors je vais lire encore une femme poète, Joumana Mustapha. Elle est née en 77 au Koweït, où ses parents se sont installés. Après avoir quitté la Palestine, elle vit actuellement en Jordanie, où elle organise des manifestations culturelles. Et là, c'est un extrait d'un long poème, mais je vais juste lire un extrait qui s'appelle « Griffes » au pluriel. « En pleine rue, je vends aux passantes des griffes. Je les étale, les limes, les astiques, et donne de la voix. Je vends aux passantes des griffes. Une griffe pour tuer, une griffe pour violer, une griffe pour blesser, une griffe pour découdre les blessures, une griffe pour se donner des gifles au-dessus des tombeaux des aimés. Que celle qui se sent plus malheureuse dans son métier se présente et dise « Me voici ». Que celle qui estime être plus fidèle à son exercice se présente et dise « Me voici ». Que celle qui conçoit la jalousie, le doute, la haine, l'idée du suicide se présente et dise « Me voici ». Je lui vendrai alors une griffe. Et me voilà,
vendant des griffes. Je les essaie sur mes cuisses, mes bras, mes chevilles. Alors que celle qui ressentirait la moitié de ma douleur se présente et dise « Me voici ». « Mesdemoiselles, je vends des griffes. Je les vends aux plus ravissantes d'entre vous. À moi, venez, accourez. J'ai ici une griffe pour tuer, une griffe pour violer, une griffe pour blesser, une griffe pour découdre les blessures, une griffe pour se donner des gifles. Sur les tombeaux des aimés, griffes, griffes !»
Merci beaucoup, Marc. Je propose un petit morceau du trio Joubrebrand et ensuite un autre poème. Un petit morceau de musique, « L'art d'aimer » par le trio Joubrebrand. Petit morceau, un tout petit, mais il faut se faire plaisir, du trio Jourdan, qui est extrait de l'art d'aimer. Marc, avant de nous lire un poème, dis-nous de quel ouvrage sont extraits tes poèmes.
Eh bien, c'est une anthologie de la poésie palestinienne d'aujourd'hui. Les textes ont été choisis et traduits de l'arabe par Abdelatif Lahabi, grand poète marocain, qui a connu la prison lui aussi. Donc là, c'est un poème de Rola Siran. Elle est née à Beyrouth en 1978, dans une famille qui a dû quitter Ramla en 1948. Elle vit actuellement à Ramallah. Voilà, c'est un court poème qui s'intitule « J'ai tout ce que je vois ». Moi seul avais les yeux verts de blé. J'ai tout ce que je vois. Moi seul avait un hiver au temps de l'eau. J'ai ici toutes les saisons. Moi seul avais la voix de la terre, abolissant le désert. J'ai l'histoire entière, venue et repartie. Moi seul avais le cri de la conscience, se répandant comme le chant. J'ai tout son parti pris, et sa dépendance aveugle. Moi seul avais les détails de la disparition de mon cœur dans l'air. J'ai tout l'amour du miel. J'ai tout cœur ici.
Un autre ?
Un dernier ? Alors, on va terminer par un poème de Raja Ghanim. Elle est née en 1974 à Damas et elle vit actuellement à Jérusalem. Elle écrit régulièrement dans la presse arabe des études sur le théâtre, la danse, le cinéma. Et le poème que j'ai choisi s'intitule « Lumière ténue ». J'ai emprunté, pieds nus, la route qui menait vers toi. Mes petits pieds ne ressemblaient pas à ceux des femmes dans cette partie géographique du monde. Uniquement avec deux pieds amoureux, j'ai décidé d'aller vers toi. J'étais malade d'amour et d'un pays qui m'a chassé, de toutes ces villes et côtes. Avec un oiseau facétieux que je remettais chaque fois dans la cage de l'âme, j'étais chargé de moult feuilles de tabac et de chansons que plus personne n'écoutait. Mes pieds étaient gercés. De ces gerçures filtrait la lumière de quelque chose dont nous connaissons très bien le goût et qui s'appelle l'amour. J'étais une femme habitée par l'amour, ayant marché pieds nus sur des cartes, ne reconnaissant nul miracle, ayant peur de retourner dans la tribu, là-bas où la vengeance luit dans les yeux des hommes et où l'attendent 40 coups de fouet.
Merci beaucoup Marc pour ces poèmes. Merci Sidi pour la technique. Nous vous souhaitons un bel été. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain à 18h pour une autre émission d'une heure en Palestine.
Et merci à toi Claire pour cette belle émission. Shut up.